Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. Philippiens 2, à partir du verset 1. Alors, vous vous souvenez que cette section que nous sommes en train de lire traite de l'unité. L'unité des croyants, l'unité face au monde et l'unité dans l'église locale. Donc, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Philippiens 2, verset 1 à 8. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jusqu'ici, notre lecture. Prions. Oui, notre Dieu, nous venons à toi avec nos faiblesses, notre intelligence limitée, et nous te prions par ton esprit d'agir dans nos cœurs pour rendre ta parole claire à notre pensée, mais aussi pour incliner nos cœurs dans l'obéissance à ta parole. Agis dans chacun de nous, nous te prions, pour la gloire de ton nom, pour le bien de ton Église. Amen. Quel est le but de Paul, hein, quand il écrit tout ce que nous venons de lire? On l'a dit, c'est l'unité de l'Église locale. Il avait exhorté donc les Philippiens à rechercher l'unité. Que je vienne pas, tout ce qu'il faut faire, c'est rechercher l'unité. Être unis face à l'opposition du monde, en combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. C'est ce qu'il avait dit, chapitre 1, verset 27-28. Mais aussi être unis les uns aux autres dans les relations au sein de l'Église locale. Et c'est ce que nous avions vu la semaine dernière dans les versets 1 jusqu'au verset 4. Donc, pour encourager l'Église à cette unité spirituelle qui est essentielle, Paul avait donc donné des motivations, on avait vu cela, à l'Église. Ensuite, il avait défini un peu ce qu'est être uni, ce que ça veut dire d'être uni. Hein. Verset 2, quand il disait qu'il faut être animé d'un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et puis, il avait défini comment cela doit se manifester de manière pratique. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est la manifestation pratique. Voilà comment cela doit se faire. Mais, vous savez, souvent, comme dans beaucoup de situations, on peut avoir les motivations, on peut connaître la nature des choses, on peut savoir comment il faut les faire pratiquement, mais on pourrait se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un exemple, hein, de ce qui est exigé ici? Et l'apôtre Paul va donner aux Philippiens un exemple suprême de ce qu'il veut dire par l'humilité, par le fait de rechercher et l'intérêt des autres, ne pas être animé d'une vaine gloire, considérer les autres comme étant au-dessus de soi-même. Tout cela, il dit, vous pouvez le voir dans la personne, vous pouvez le voir parfaitement accompli dans la personne de Jésus-Christ. Mais il le dit non pas simplement pour montrer juste un exemple. Avant de donner cet exemple, qu'est-ce qu'il dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Autrement dit, la raison pour laquelle il donne l'exemple de Christ, c'est pour que les Philippiens regardent cet exemple, le contemplent, le méditent, et puis il dit qu'ils doivent avoir ces mêmes sentiments. Autrement dit, si vous voulez vivre cette unité dans l'Église, il faut être animé de la mentalité de Jésus-Christ. Donc il va illustrer son propos en donnant vraiment l'exemple de l'abaissement de Christ pour montrer concrètement ce que ça veut dire de considérer l'intérêt des autres et d'être humble. Alors ce passage que nous avons lu, et c'est l'un des passages les plus, on n'a pas lu tout, parce qu'il y a après l'exaltation verset 9 ou verset 11, c'est l'exaltation de Christ, mais c'est l'une des pages les plus profondes, les plus belles théologiquement concernant la personne de Christ. C'est un passage profondément doctrinal dans lequel il est révélé ce qu'on appelle la doctrine de Christ, ce que les théologiens appellent la christologie. Qui est Christ? Qui il était avant de venir et qu'est-ce qu'il a fait? Donc ce passage traite de sa préexistence, ce passage traite de son incarnation, de son abaissement, de sa crucifixion, de manière implicite de sa résurrection et de son exaltation. On en a tout un concentré de doctrine sur la personne de Jésus-Christ. Mais ce que l'apôtre Paul fait ici, il ne le donne pas simplement pour une étude théologique, mais il le donne pour des aspects, on pourrait dire, de conduite, des aspects éthiques. Et c'est très important de considérer donc ce qu'il dit ici. Et l'exhortation pour les Philippiens ici, et pour nous ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si nous voulons obéir au commandement de l'unité spirituelle dans l'Église locale, nous devons absolument avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et donc là, le titre de la méditation ce matin, c'est « La mentalité de Christ, moteur de l'unité de l'Église locale ». La mentalité de Christ, moteur de l'unité de l'Église locale. Nous voulons voir premièrement ici quelle est la mentalité de Christ quant à sa condition divine. Ce que l'apôtre Paul montre ici. Quelle est la mentalité de Christ quant à sa condition divine? Il commence par décrire Christ avant son incarnation. Regardez ce qui est écrit ici, donc, et verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. » Existant, dit-il, en forme de Dieu. Donc il parle de la condition, premièrement, pré-incarnée de Christ. Existante en forme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, existante en forme de Dieu? Certains utilisent ce passage pour dire que Jésus n'est pas complètement Dieu. Il a une forme de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Selon eux, c'est ce que renferme ce terme, hein, forme de Dieu. C'est comme si on disait, voilà, il ressemble à un Dieu dans la forme, mais il ne l'est pas dans sa nature. Mais le mot forme de Dieu, la traduction de mot, qui veut dire morphée, qu'on trouve par ailleurs dans l'Écriture, et qui exprime la vraie nature, et certains disent la nature qui ne change pas ici. Donc il exprime la réalité intérieure, il exprime l'essence même, quand il dit existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement la forme, mais il a la forme, les manifestations extérieures, il est vu comme cela dans le ciel, dans les cieux, par tous les êtres célestes, mais il en a aussi l'essence. Il ne dit pas qu'il a une forme sans avoir ici la nature, mais que Jésus était parfaitement Dieu dans sa nature et dans toutes les manifestations extérieures de cette nature. Et quelqu'un a dit ceci, il a dit « La participation à la forme implique pour Jésus nécessairement la participation à l'essence. » On ne peut pas Quand on parle de Christ ici, ce que Paul souligne ici, c'est que Jésus était vraiment Dieu. Et le verset suivant, je pense, nous aide à comprendre ce que ça veut dire, parce que l'apôtre utilise la même expression. Il dit, pour verset 6, « existante en forme de Dieu ». Et regardez le verset 7, il dit, « mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ». En forme de Dieu et puis en forme de serviteur. Et ça ne veut pas dire, quand on prend l'expression « forme de serviteur », que Jésus a simplement ressemblé à un serviteur, mais il n'en était pas un en réalité. La Bible parle de lui comme étant le serviteur parfait. Il a développé tous les caractères du serviteur. Donc quand il dit ici qu'il a pris la forme d'un serviteur, il ne dit pas qu'il a pris les contours simplement, qu'il a fait semblant d'être un serviteur, mais il était dans tout son caractère, dans l'incarnation, le véritable serviteur. Donc on comprend bien ici que ce que Paul dit quand il parle de sa condition préincarnée, c'est que Jésus était Dieu de toute éternité, pleinement Dieu et également Dieu comme le Père. C'est ce que l'apôtre Jean souligne quand il dit « au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et donc, en tant que Dieu véritable, il jouissait de toutes les prérogatives de Dieu. Honneur, gloire, majesté, tout cela lui sont dus. Et en tant que Dieu, il a toujours tous les droits qui affaire à sa position, à son rang, à sa condition et à sa majesté. Donc on pourrait rappeler ici ce que l'Écriture dit concernant Jésus-Christ, et ce qu'on cite dans les credos, c'est qu'il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Mais il existe en trois personnes distinctes. Et chacune de ces personnes est parfaitement Dieu. Donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Les trois personnes sont distinctes et il y a un seul Dieu. Alors c'est une difficulté pour notre intelligence humaine. Si on prend chaque chose séparément, on arrive bien à les concevoir. Si on les met ensemble dans notre cerveau, ça se télescope. D'accord ? C'est un petit peu difficile. Mais c'est ce que l'Écriture enseigne. Il y a un seul Dieu. Et la Bible parle du Saint-Esprit, donc Dieu, de Jésus-Christ comme Dieu, parfaitement Dieu, du Père comme parfaitement Dieu. Et les trois personnes, en même temps, sont distinctes, parce qu'elles communiquent entre elles. On les trouve dans la Bible en train de se parler entre elles. Donc il y a une communication et on conclut que les trois personnes sont distinctes. Donc ici, Paul montre d'abord la condition préincarnée de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Et il dit plus loin qu'il parle de son égalité avec Dieu, d'accord, à la fin du verset 6. Mais surtout, il montre la considération qu'a Jésus-Christ de sa propre position, sa propre condition. Lequel existant en forme de Dieu, dit-il, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et donc, deuxièmement, l'apôtre a dit, donc premièrement sur la position, mais deuxièmement sur la considération de Christ par rapport à sa position. Il dit ici, il attire donc la pensée des Philippiens sur la manière avec laquelle Christ a considéré ce qu'il était. Et il exhorte à déceler cette pensée-là. C'est ça qu'il dit. Quand il dit « ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », il dit, lequel existant en forme de Dieu, voilà sa mentalité, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc comment a-t-il considéré cela? Si on veut lui regarder, on va lire dans différentes traductions comment ce verset est traduit. Dans la version Darby, il dit, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. La parole de vie dit, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. C'est un peu le sens ici. Lui, second 21 dit, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Okay. » Donc, certaines personnes disent, « Oui, bon, il n'était pas égal avec Dieu parce qu'on dit qu'il n'a pas regardé, donc il voulait, etc. » Non, ce n'est pas ce que le texte dit. Il dit qu'il était Dieu. Et cette égalité qu'il a avec Dieu, il n'a pas cherché à exiger à partir de cette égalité tout ce à quoi il a droit. L'idée est que Jésus, en tant que Dieu, n'a pas utilisé sa condition divine comme prétexte pour affirmer sa position et refuser, par exemple, l'humiliation. Il aurait pu exiger de plein droit toutes les prérogatives qui sont liées à sa condition de Dieu. Vous connaissez, nous les hommes, lorsque nous avons une position, nous aimons utiliser les droits qui sont liés à cette position. Si on est patron, on aime bien utiliser les droits qui sont liés. Si on est responsable du personnel, il faut que le personnel sache que c'est nous qui sommes les responsables. Et on va utiliser les droits. Et le monde dans lequel nous vivons nous pousse, n'est-ce pas, à exercer toujours nos droits. J'ai droit à ceci et j'ai droit à cela. Et Christ aurait pu exiger de plein droit toutes les prérogatives qui sont liées à sa condition de Dieu. Mais je vais vous lire ce que dit un théologien que nous avons étudié, qui s'appelle MacLeod. Il le dit bien, c'est pour ça que je peux faire le citer. Il dit, Christ aurait pu refuser de devenir serviteur. Bon, il ne l'a pas fait. Mais il dit, ayant accepté d'être envoyé, il aurait pu exiger que ce soit selon le respect dû à sa dignité. Il aurait pu demander à venir, non pas incognito, par exemple, crèche, mais avec tout l'éclat des manifestations divines, comme Yahweh sur le mont Sinaï, par exemple, ou comme lui-même lors de son retour glorieux, ou comme le tentateur l'a suggéré dans le désert, insensible à la faiblesse, illustre comme souverain, gardé par des anges, ou au moins dans la gloire qu'il a connue momentanément sur la montagne de la transfiguration, recevant du Père, vous vous rappelez, était-il dit, honneur et gloire. C'était son droit, mais étant de condition divine, il n'a pas fait valoir ce droit. Et c'est vrai qu'il aurait pu faire toutes ces choses. Et ce que l'apôtre Paul est en train de souligner, c'est que, étant dans cette condition, voilà ce que Christ a fait. Et il donne cela aux Philippiens comme mentalité à imiter. C'est la pensée qui anime Jésus de ne pas regarder à ses doigts, de venir faire la volonté de son Père. On lit cela dans l'Épître aux Hébreux, il dit, quand Christ entre dans le monde, on n'a pas beaucoup de choses de ce que Christ dit en entrant dans le monde, mais dans l'Épître aux Hébreux, il dit que quand Christ entrait dans le monde, donc il parle ici de l'incarnation, il dit, en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et ça, c'est ce qu'il dit quand il rentre dans le monde. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Voilà ce que dit Christ. Voilà quelle mentalité l'anime. Il n'a pas cherché à exercer ses droits. Et les hommes, on l'a dit tout à l'heure, considèrent leur position, leur rang, souvent pour refuser des tâches. Cette tâche n'est pas digne de mon rang. Et on voit ça partout, quel que soit le rang que l'on a dans la hiérarchie. Si on nous demande de faire une tâche, parfois on dit, c'est où dans les textes? Ça ne fait pas partie de mes attributions. Ça, c'est l'attribution de quelqu'un d'autre. Et on aime cela, n'est-ce pas? On se bat pour préserver des privilèges. Parfois, on transforme même nos privilèges en droits. Et on se bat pour ne pas perdre ces privilèges, même si ça doit bloquer l'économie d'un pays. On est prêt à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on se bat pour ces droits. Et nous sommes tous de cette nature. Dans le foyer, ça peut être pareil. Dans l'église, ça peut être pareil. Dans les relations, ça peut être pareil. On estime qu'on a droit à beaucoup de choses et que chacun doit respecter nos droits. Et on regarde nos droits comme une proie à arracher. J'ai droit à trouver une place quand je viens ici pour me garer. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits. Parfois, même comme si on avait, on s'adresse à Dieu, comme si on avait des droits devant Dieu. Il doit répondre, il doit faire ceci. Et j'entends parfois des personnes qui prêchent l'exemple que Dieu, il a des devoirs envers nous. Mais où est-ce qu'on a vu ça? D'accord? Non. Jésus-Christ, lui, avait tous les droits, dit l'apôtre Paul. Et il n'a pas regardé ses droits comme quelque chose à tirer profit pour lui-même. Mais il sait, on va le voir, dépouillé. Christ, qui a tous les droits, n'a pas considéré cela comme un obstacle au service pour faire la volonté de son Père. Voilà ce que l'apôtre Paul soumet ici à la méditation des Philippiens et aussi à la nôtre. Premièrement, considérer la mentalité de Jésus-Christ par rapport à sa condition divine. Et puis deuxièmement, de considérer aussi, j'appelle ça le fait d'assumer, donc l'assumation volontaire de la condition humaine la plus basse. L'assumation volontaire de la condition humaine la plus basse. Non seulement Jésus était animé d'une mentalité dans laquelle il n'a pas exigé l'exercice de ses droits, mais cela se transforme après dans un acte particulier d'abaissement, et d'abaissement toujours, toujours, toujours plus bas. Notre cheminement, c'est de toujours, on appelle ça quoi? Gravir les échelons. On veut toujours monter, toujours plus haut. Depuis le jardin d'Éden, ça a été ça. Qu'est-ce que le diable a dit à Adam et Ève? Si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu, vous allez gravir les échelons. Voilà ce que le premier Adam a cherché à faire, à gravir les échelons. Et on voit où ça nous a mené. Mais le second Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse, et il s'abaisse, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'abaisser. C'est ce que nous dit le texte ici. Il assume, et pour le faire, il assume volontairement la condition humaine la plus basse. Mais, il dit, je relis le verset donc 6, « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. » Christ s'est dépouillé lui-même. Dans d'autres traductions, peut-être que vous avez, il s'est vidé, hein. C'est le sens de ce mot. Il s'est vidé. D'autres traduisent, il s'est anéanti. C'est le même mot qui est traduit par exemple, rendre vain, rendre vide, ici. Et on associe parfois ce verset à 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, où il dit que Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous. Encore, donc il y a eu un appauvrissement, il s'est vidé. Mais la question qui vient à ce stade est souvent celle-ci. De quoi Christ s'est-il dépouillé? De quoi s'est-il vidé? Alors là-dessus, il y a beaucoup de théories. Il y a une théorie qui consiste à dire que la seconde personne de la Trinité s'est dépouillée d'une partie de ses attributs divins. Sans quoi, il n'aurait pas pu partager véritablement la nature humaine. Si Dieu, Jésus, restait totalement Dieu avec tous les attributs, il n'aurait pas pu partager profondément la nature humaine. Mais ce n'est pas juste. Hein. La Bible enseigne le contraire. Certains avancent qu'il a dû abandonner certains de ses attributs, pas tous, peut-être l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, etc. Mais il suffit de lire les évangiles pour relever ce que Christ dit de lui-même et pour voir qu'il est demeuré parfaitement Dieu. D'ailleurs, les personnes qui le connaissaient lui disaient « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Donc, ça veut dire qu'ils avaient compris vraiment ce que Jésus disait. Donc, étant sur la terre, étant incarné, Christ était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Alors, bien sûr, le texte dit qu'il, mais pour le faire, il s'est dépouillé, il s'est vidé. Alors, on pose souvent la question de quoi il s'est vidé. Mais le texte ne dit pas ici de quoi il s'est vidé, mais plutôt comment il s'est vidé. En faisant quoi? En quoi est-ce qu'il s'est vidé? Et donc, si vous regardez le verset suivant, nous avons quelques indications là-dessus. Il dit ici, mais il, verset 7, il s'est dépouillé lui-même en faisant quoi? En prenant une forme de serviteur. En devenant serviteur. En fait, Christ s'est dépouillé, s'est vidé, il s'est humilié en devenant quelque chose qu'il n'était pas. Il était Dieu, parfaitement Dieu, et il est devenu, on voit plus tard, un homme, mais ici, en embrassant ici le caractère, il dit, de serviteur, en prenant la forme de serviteur. Celui qui existe en forme de Dieu, qui est l'égal de Dieu, prend une forme de serviteur. Il assume pleinement donc le caractère de serviteur. Ce n'est pas, on a dit tout à l'heure, qu'il ressemble à un serviteur, mais il manifeste vraiment tous les caractères de serviteur. Il est d'abord le serviteur de qui? Le serviteur de Dieu, ici. Si vous lisez Ésaïe, chapitre 42, où il parlait du serviteur, il dit, « Voici mon serviteur, 42 verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. » Ce texte parle de Jésus-Christ, parle du Messie, hein, comme le serviteur de Dieu. « Voici mon serviteur, dit Dieu. » Ésaïe 53, verset 11 dit, « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Donc, celui qui devient ici le serviteur, c'est celui qui est l'égal de Dieu. C'est ce que Paul dit ici. De condition divine, il ne regarde pas cette condition comme une poix arrachée pour rester dans cette position. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit ici, il se dépouille lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Mais celui qui est l'égal de Dieu devient le serviteur de Dieu. Les hommes acceptent à peine d'être le serviteur de ceux qui sont placés bien au-dessus d'eux. À peine nous acceptons ça, n'est-ce pas? Mais que dire si on nous demande d'être serviteur de celui qui est du même rang que nous? Là, on dira, j'ai entendu des fois, on a le même âge. On a la même fonction. On a été embauché au même rang. Il n'est pas au-dessus de moi, je ne suis pas au-dessus de lui. D'accord. Donc, je ne vais pas être son serviteur. Mais ici, la Bible dit que celui qui était l'égal de Dieu, le Fils, la seconde personne de la Trinité, prend la forme d'un serviteur et devient le serviteur de son égal. Et c'est ce que Paul veut montrer ici aux Philippiens. Peut-être dans l'église de Philippe, il y avait des gens qui disaient « Non, non, moi, nous sommes tous pareils, il n'y a pas d'en haut, il n'y a pas de bas, etc. » Oui, probablement. Probablement. Mais il dit « Regardez à Christ. Regardez quelle mentalité a animé Christ. Il est devenu le serviteur de celui qui était son égal. Il s'est dépouillé lui-même en devenant le serviteur de celui qui était son égal. Et il est aussi devenu le serviteur des hommes. Il devient aussi serviteur de celui même qui l'a créé. Le créateur devient serviteur de la créature. Alors là, c'est même pas la peine de parler de ça pour nous. Hein. Déjà, on a du mal avec ceux qui sont au-dessus de nous, complètement bloqués avec ceux qui sont au même niveau que nous. Si on parle d'être au serviteur de ceux que nous considérons comme étant de moindre, comment je vais dire ça, de rang plus, moins élevé, eh bien, c'est la catastrophe. Moi, je suis à ce niveau, j'ai pas à obéir à celui qui est à ce niveau, à servir celui qui est à ce niveau. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, étant Dieu de toute éternité, se fait serviteur son égal. Et devenant un homme, il se fait serviteur même des hommes. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Voilà en quoi, premièrement, Christ s'est dépouillé. existant en forme de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Mais la condition dans laquelle, quelle est la condition dans laquelle il accomplit ce service de serviteur? Il s'est dépouillé lui-même, regardez notre verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il n'est pas devenu semblable aux anges, mais aux hommes. Il a participé, la Bible dit, à la chair et au sang. Ainsi donc, puisque les hommes participent, les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il a également participé à la nature humaine. Et il n'est pas devenu semblable aux hommes, quelqu'un disait pas semblable à Adam, d'accord, mais qui n'avait aucune, juste après la création, qui n'avait avant le péché, je veux dire l'homme d'avant le péché, mais à l'homme d'après la chute. C'est-à-dire qu'il est devenu semblable aux hommes en épousant, en prenant cette nature qui est affectée par le péché. C'est ça que la Bible dit. Romains chapitre 8, verset 3 dit « Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Donc la chair dans laquelle Christ entre, c'est une chair semblable à celle du péché. C'est pour ça qu'il était, la Bible dit, tenté comme nous en toutes choses. Il a connu la fatigue, la faim, la soif, etc. D'accord ? Parce qu'il a pris la chair d'après la chute, c'est-à-dire la chair telle que nous la connaissons, celle qui est sujet aux souffrances à cause du péché. La seule chose, d'accord, que la Bible nous dit à propos de Christ, c'est qu'il n'a jamais péché. Et ça, il faut le retenir. Il n'a jamais commis de péché. Mais il a revêtu une chair semblable à celle du péché. Et c'est dans cette chair semblable à celle du péché que Dieu juge et punit le péché, nous dit Romains chapitre 8 et au verset 3. Donc Christ a accompli ce service dans la condition de l'homme, on pourrait dire de l'homme déchu. Mais dans cette condition humaine, il choisit en plus de paraître, il aurait pu choisir, ayant choisi d'être dans l'homme de condition déchu, il aurait pu choisir de paraître comme un personnage important que l'on remarque quand il passe. Eh bien, la Bible dit non ici. Qu'est-ce qu'il dit, notre verset? Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il ajoute, et il apparut comme un vrai homme ou comme un simple homme. C'est-à-dire que lorsque les gens voyaient passer Jésus, ils disaient pas, ah, hé, vous avez vu ce gars? Waouh! Non. Il passait incognito, comme vous et moi. D'accord? Personne, enfin, peut-être que pour vous, les gens se retournent sur la route, mais pour moi, non. Personne ne se retournait quand il passait. Il apparut comme un simple homme. Il n'était pas auréolé de gloire, il avait l'apparence d'un simple homme. Et Ésaïe même nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Rien dans son apparence ne laissait entrevoir autre chose qu'un homme et qu'un homme des plus ordinaires. Il faut imaginer cela quand même. Hein. C'est Dieu, de vrai Dieu, les théologiens. Celui qui a tout créé, qui entre dans la création et il y entre par la plus petite porte et il paraît comme un vrai homme. Il n'a pas fait appel à quoi que ce soit pendant sa vie sur la terre pour se sortir de quelque situation que ce soit. Quand il a été tenté, rappelez-vous, le diable lui disait, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Fais un miracle. Il n'a pas fait ces choses. Pour lui-même, tout ce qu'il a fait comme miracle, il l'a fait pour les autres. Vous avez remarqué? Il a guéri les autres. Il a ressuscité les autres. D'accord? Il a multiplié le pain pour les autres. Mais quand lui s'est trouvé dans des situations les plus difficiles, délicates, il n'a fait aucun miracle pour lui-même. Il a tout accepté. Il a vécu comme un simple homme. À l'église de Philippe, certains essayaient sans doute de paraître pour plus qu'ils ne sont. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que personne au lieu ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et nous sommes extrêmement sensibles, n'est-ce pas, à ce que l'on pense de nous. Et ce que l'on pense de nous est plus important pour nous que ce que nous sommes vraiment. Et c'est pour ça qu'on essaie parfois, on fait des efforts considérables pour paraître. Paraître au-dessus de ce que nous sommes, réellement. Mais Christ a fait tous les efforts pour paraître comme un simple homme. Pour cacher le plus possible ce qu'il était. Et l'apôtre dit, voilà comment Christ a été animé. Ne pas exiger l'exercice de ses propres droits. Prendre la forme d'un serviteur en devenant un homme, mais plus que cela, en devenant un simple homme. Il a paru comme un simple homme, comme l'homme de son époque. Et il n'a rien utilisé pour lui-même. Je voudrais dire, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, le temps passe, mais quelques conclusions, chers frères et sœurs, sur ces petites choses que nous avons, ces deux versets que nous avons vus. Que les vérités théologiques, aussi profondes soient-elles, ne sont pas simplement des tableaux à contempler. On peut dire, ça c'est l'une des plus belles pages, profondes pages, les plus sublimes sur Jésus-Christ. Mais l'apôtre ne le donne pas ici comme un tableau simplement à contempler. Si, il faut le contempler, mais il faut le méditer, et surtout il le donne comme un miroir pour que nous puissions nous voir par rapport à ce qui est exigé de nous. Il dit, ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, vous voulez l'unité de l'Église, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Regardez à Christ, et c'est ces sentiments-là, c'est cette mentalité-là qui doit vous animer. Il n'y a aucune raison pour que le disciple ne soit pas animé de la même pensée que son maître. Jésus-même, il l'a dit. Quand il a lavé les pieds des disciples, vous vous rappelez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean chapitre 13, versets 12 à 15. Et Jésus ne dit pas qu'il faut, chaque dimanche quand vous arrivez, vous enlever vos chaussures et vous laver les pieds les uns les autres. C'est pas ça qu'il dit. Et nulle part, après, dans les textes de l'histoire de l'Église, on ne trouve cela érigé en rite. Mais la mentalité qui motive cela, c'est ça qu'il veut que nous produisions. C'est-à-dire l'attitude qui consiste à dire le maître lave les pieds des disciples. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rang que je puisse avoir qui soit un obstacle au service des autres. Aucun rang n'est un obstacle au service des autres. Si je suis le chef de famille, ça n'est pas un obstacle que je sois au service de la famille dans la maison. On ne peut pas dire, c'est moi le chef ici. Voilà, les tâches c'est ça, c'est attribué, toi tu fais ça, moi je fais ça, les enfants ils font ça, et on se mélange pas. C'est pas ça. Quelle que soit la position que Dieu nous donne, que Dieu permet, à laquelle il permet que nous sommes, il dit cela n'est absolument pas un obstacle pour servir. Et on le voit en regardant la position préincarnée de Christ, et en regardant jusqu'où il est allé pour servir. Donc, ce ne sont pas des tableaux simplement à contempler, mais ce sont des miroirs et des exemples pour nous montrer où nous en sommes, et puis des exemples à imiter. Et puis, ce texte nous montre aussi qu'un des plus grands obstacles pour nous à l'unité, c'est l'insistance que nous plaçons sur nos doigts. Et nous devons être à l'image de Christ. Les doigts sont les doigts. Il n'a pas perdu ses doigts. L'apôtre Paul, vous rappelez, il a dit, j'ai le droit de prendre une femme et de me marier. J'ai le droit de recevoir un salaire parce que je prêche l'évangile. Il dit, mais je n'ai usé d'aucun de ses doigts. On a le droit de ne pas user de ses doigts. Aussi. D'accord? C'est un droit qu'on n'utilise jamais, celui-là. Hein? Mais tous les autres, on veut les utiliser. Okay. Ce texte nous montre que c'est l'un des plus grands obstacles quand on tient les choses comme si c'était des doigts. Quelle que soit la chose, le fait de prêcher, par exemple. Si on s'accroche à ça comme un doigt, c'est un obstacle à l'unité de l'Église. Ou la musique, ou quel que soit le service, c'est un obstacle. Si on s'accroche et qu'on regarde ces choses comme des droits. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ, de celui qui ne s'accroche pas à ce qu'il est, mais qui développe ce caractère d'humilité, de soumission volontaire et d'abaissement. Et puis je termine en disant que pour avoir les sentiments de Christ, il faut avoir Christ. Pour avoir les sentiments de Christ, qui était en Christ, il faut avoir Christ. Ce que Paul dit ici est impossible, chers frères et sœurs, pour vous et pour moi. Naturellement, on a dit la semaine dernière, personne n'est humble naturellement. Personne. Nous sommes les plus orgueilleuses personnes de la planète. Plus que tous les animaux qui existent. L'homme est orgueilleux. Profondément orgueilleux. C'est notre nature même. Et donc, pour être animé des pensées qui étaient en Jésus-Christ, il faut absolument être habité par Jésus-Christ et par l'Esprit de Jésus-Christ. Autrement dit, il faut être à Christ. Il faut venir à lui. Il faut venir à lui. Sinon, il est impossible de vivre l'unité telle que la parole nous le demande ici. Et aujourd'hui, si vous êtes là et vous ne connaissez pas ce Christ, vous ne connaissez pas cette unité dans laquelle Christ veut plonger ce qu'il rachète, eh bien, c'est le jour où vous pouvez vous tourner vers lui. Parce qu'un jour, eh bien, son Église, la Bible dit, sera unie avec lui pour toujours. Pour toujours. Mais ceux qui ne l'auront pas reçu, eh bien, demeurent sous son jugement. Ils ne connaîtront pas cette union, mais la condamnation et le châtiment conscient et éternel. Et si vous ne connaissez pas Christ, eh bien, vous pouvez aujourd'hui venir à lui, vous repentir de vos péchés et croire en lui. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la pensée que nous devons, avec laquelle nous devons partir et avec laquelle nous devons nous interroger. Suis-je animé des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui sont décrits ici? Quel sentiment m'anime? Et si vous voulez savoir quel sentiment vous anime, il faut regarder comment vous réagissez. C'est comme ça que j'arrive à voir ce qui m'anime. Je peux dire, oh, je suis bien animé, de bons sentiments, je ne pense pas ceci, je ne pense pas cela. Mais si on me presse subitement et j'ai beaucoup de choses, est-ce que je suis animé des sentiments qui étaient en... Qu'est-ce qui sort? Est-ce que c'est l'abandon de ses doigts, l'acceptation de rang de serviteur, etc., etc. Ou est-ce que tout de suite on se dresse, hein? Pendant que je préparais ce message d'hier, j'ai passé le week-end était vraiment très chargé et donc j'étais sous pression un peu et le téléphone sonne. C'est quelqu'un qui m'appelle de l'autre bout de l'Atlantique. Et j'ai dit, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? J'ai pas. Et puis j'étais en train de penser, Christ, j'ai dit, c'est comme si tu disais, mais j'ai le droit d'avoir ce temps pour préparer mon message. J'ai dit, mais Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait? D'accord? Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé à ses droits comme une proie arrachée. Alors cette pensée m'a animé, mais je sentais que j'avais envie d'exiger mon calme pour préparer le message. Et c'est dans plein de petites situations comme ça, comment nous réagissons. Le Seigneur nous montre à travers nos réactions ce que nous sommes vraiment. Pas pour nous affliger, mais pour nous dire que nous avons besoin de continuer à travailler, de demander pardon et d'avancer avec lui. Que le Seigneur nous aide et nous conduise par son esprit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prions.